Bonjour, c'est Portrait, une émission proposée et animée par Claire-Lise Chaubelet.
Chances are, 'cause I wear a silly grin.
J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Soluto. Soluto, oui, le peintre et l'auteur. Vous avez certainement déjà vu des affiches avec ses expositions. Il peint depuis très longtemps. Il va nous raconter cette histoire de vie et ce parcours qu'il a eu. Il ne dit pas souvent que l'art a une place aussi importante dans sa vie. La peinture et l'écriture, eh bien, c'est l'essentiel. Il se vit d'ailleurs comme peintre et auteur en parallèle de son métier d'infirmier. Soluto, bonjour.
Bonjour Claire-Lise.
Merci d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui dans Portrait.
Oui, c'est moi qui vous remercie. Je suis très content d'être là.
Alors, je sais que vous êtes un peu tendu parce que vous n'avez pas l'habitude de parler de vous de cette façon-là dans un micro. Mais vous allez voir, tout va bien se passer. Et j'ai une première question à vous poser avant que vous dévoiliez les photos, les objets, les senteurs que vous avez choisis, comme tous les invités de cette émission. Mm-hmm. Cette première question, c'est Soluto, pour qui peignez-vous ?
Ah, ça c'est une excellente question. C'est une question qu'on ne pose pas souvent aux peintres. On leur demande souvent de justifier leur travail, mais on ne leur demande pas à qui ils s'adressent. Eh bien moi je peins, ou du moins j'essaye de peindre pour tout le monde. Peu importe que la personne qui arrive devant mes œuvres soit cultivée ou pas, qu'elle ait déjà vu de nombreuses expositions, ou que ce soit un premier contact, j'ai le souhait, le désir authentique, c'est pas une posture, j'ai le souhait vraiment de m'adresser à tout le monde. D'ailleurs, dans mon travail de peintre, au fil des années, ma démarche a été de toujours me rapprocher un petit peu plus du spectateur. J'ai commencé par un travail de peinture un peu ardu dans les années 80, qui était sinon conceptuel, du moins qui avait un pied dans une abstraction assez rigoureuse. Et petit à petit, je me suis défait de tout ce qui pouvait créer des interférences entre une représentation, un tableau et sa possibilité d'être reçu par un spectateur, quel qu'il soit. Alors bien sûr, évidemment, j'essaye de faire une peinture qui a plusieurs épaisseurs, plusieurs
niveaux
de lecture, bien sûr. Et selon qu'on est habitué à voir de la peinture ou pas, on l'accueille différemment. Chacun vient avec ses références. Mais je m'adresse véritablement, en tout cas dans l'intention, à tout le monde.
Alors, je pense que c'est important de donner des clés de lecture aux... Vous avez parlé de spectateur, moi je parlerais plutôt de regardeur, mais enfin le résultat est le même. Mmh. Vous avez parlé tout à l'heure de conceptuel, d'une peinture conceptuelle. Et ça fait un petit peu partie du jargon parfois. Est-ce que vous pourriez en dire davantage sur ce terme-là qui revêt parfois des choses un peu abstraites justement pour les visiteurs d'une exposition ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'art conceptuel, la peinture... conceptuel, pour autant qu'il y ait une peinture conceptuelle, parce que ça s'appuie quand même sur une vraie matérialité, ça s'adresse avant de s'adresser à l'œil, ça s'adresse plutôt à l'intelligence, à l'esprit. Et ça met une distance entre le spectateur, le regardeur et l'œuvre. Moi, personnellement, pendant des années, j'ai été un grand lecteur d'art presse, par exemple, et donc j'en ai vraiment mangé de l'art conceptuel. Et je cherchais justement où était le lien jusqu'à l'œuvre, par quelle matérialité elle passait. Et j'étais très perdu par rapport à ça. J'essayais de me conformer à ce que pouvait être une peinture, un art conceptuel. Et c'était vraiment très difficile. Petit à petit, je me suis détaché de cette volonté de passer par le concept ou par l'idée ou par... je ne sais pas, quelque chose qui serait... Léonard de Vinci, par exemple, dit que la peinture est une chose mentale. Ben, oui, sans doute, indiscutablement, mais je pense que c'est aussi une expérience sensuelle. Et pour moi, c'est plus important. Et donc, petit à petit, je fais un long chemin vers cette sensualité-là.
Est-ce que l'art conceptuel est plutôt abstrait ou plutôt figuratif, ou plutôt les deux ?
Bah, il est ni abstrait ni figuratif. Il peut être même, dans certains cas, extrêmement concret. Mais ce qui prévaut, dans tous les cas, c'est le concept. C'est pas un savoir-faire, c'est pas un travail, c'est pas une façon de captiver ou de capturer le regardeur ou le spectateur. C'est vraiment s'adresser à son intelligence. C'est une autre façon d'envisager l'art. Je n'ai pas de regard péjoratif là-dessus, mais moi, ça ne correspond pas du tout à ma sensibilité. Voilà. J'ai commencé par là, c'est comme ça que plus ou moins j'ai approché l'art, et finalement, je n'étais pas moi. Il y avait quelque chose entre cet art-là et moi que je voulais dissoudre, faire disparaître.
Est-ce qu'on peut dire que cet art s'adresse aussi et principalement au sens, parce que l'intelligence, c'est difficile à mesurer. Les sens, c'est juste être touché en plein cœur, être ému.
Alors, bon, moi je souhaite m'adresser, sinon au sens, au moins à la rétine. Je revendique le fait d'être bête comme un vrai peintre. C'est une expression de Duchamp, Duchamp qui était quand même à l'origine d'un urinoir célèbre, mais surtout d'un art conceptuel. Voilà, il avait un regard par rapport à la peinture, surtout dans les derniers temps, qui était un peu péjoratif. Oui, bon, voilà. Moi, je revendique ça. Et oui, je m'adresse au sens, au regard. Je crois vraiment que, à l'abri des mots, il y a quelque chose dans les rapports de couleurs, dans la composition, dans un format, dans une matière, quelque chose qui s'adresse directement à l'âme et qui justement ne passe pas par l'intelligence.
Et comment vous écrivez mots ?
Ah ben, de toutes les façons possibles, selon les circonstances.
Vous avez dit que, lors de la préparation de cette émission, que vous essayiez d'avoir une peinture. Alors, j'espère que je vais donner le reflet de ce que vous avez dit, le plus précis possible ou la plus précise possible et la plus jetée possible. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Alors, il faut monter un petit peu à ce qui se passe juste avant de se mettre devant le chevalet. Avant de se mettre devant un chevalet, devant la toile, on a l'idée d'un tableau, une représentation qu'on a construite. Souvent, dans mon cas en tout cas, elle s'appuie sur des documents. Moi, je cherche un peu ce que je veux représenter. Je cherche des couleurs, des lumières, une composition. J'essaye d'assembler les éléments. Peu à peu se construit, comme pour une histoire qu'on va raconter, pour un récit, se construit une espèce de fiction à laquelle, au bout d'un moment, quand on passe à l'action et qu'on se met à peindre, on n'a de cesse que d'essayer de représenter le plus justement cette idée qu'on avait en tête. C'est dans ce sens-là que je parle de précision. Après, c'est une longue et lente construction. En tout cas, dans la plupart des cas, pour moi en tout cas, il y a beaucoup d'artistes qui effectivement peuvent s'exprimer en un seul jet, d'une seule façon. C'est pas mon cas, c'est pas ma façon de faire, c'est pas comme ça que j'envisage les choses. Donc j'essaye de travailler de plus en plus, de me rapprocher de plus en plus de l'idée que j'ai de ma toile, et en même temps, je ne veux pas. Et c'est pour ça qu'il y a une longue préparation en amont. Je ne veux pas que ce soit besogneux, que ce soit bouché, que ce soit
bouché.
Trop construit. Alors, boucher.
Boucher, ça, c'est un terme du jargon du peintre. On va peut-être l'expliquer.
Boucher, c'est quand ça respire plus, quand c'est complètement figé, quand c'est complètement arrêté, bloqué, soudé. Ça, pour moi, c'est le comble de la maladresse. Il y a des choses qu'il faut à tout prix éviter dans la peinture. C'est justement qu'elle soit bouchée, qu'elle soit trop travaillée,
donc,
qu'elle soit dans la joliesse ou dans la séduction. Tout ça me paraît détourné complètement.
Ça se débouche une peinture, hein. C'est boucher, déboucher. Comment vous débouchez ?
Alors, moi, j'essaye de ne pas boucher, déjà. Et puis,
c'est-à-dire, vous essayez de ne pas avoir des couches de peinture successives qui vont enlever de la profondeur, enlever de la lumière, enlever de la vibration. c'est ça?
Oui, on peut le dire comme ça. Oui, vous le dites très bien. Il faut que ça respire. Vous voyez, dans la peinture, il y a des notions qui ont un peu disparu, notamment l'enveloppe, la touche, qui était très chère aux impressionnistes.
La touche, c'est donc la façon de poser la couleur avec le pinceau ou la truelle ou la spatule.
Tout à fait. Eh bien, plus la touche a l'air spontanée, par exemple, plus elle est réfléchie, réfléchie, je ne sais pas si le mot est juste, mais plus elle est le fruit d'un travail opiniâtre, souterrain. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait le sentiment de la spontanéité. La spontanéité, elle n'est pas donnée, elle va se chercher. C'est un petit peu paradoxal, mais c'est comme ça.
Alors, ce qui est paradoxal aussi, c'est que nous parlons de peinture déjà depuis un moment, que certains ne connaissent pas votre travail. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même certains qui connaissent pas Solito.
Vous êtes vraiment aimable. Oui, c'est vrai.
Et du coup, ce serait peut-être bien de décrire certaines toiles pour que ce soit un tout petit peu plus parlant pour les auditeurs.
Oui, alors bon, moi je travaille, ma peinture est figurative. Elle est très proche de la représentation. Je gomme peu à peu tout ce que je ressent ou retient comme des artifices. Voilà, je travaille autant que je peux en essayant de donner une image qui puisse accéder directement à l'esprit du regardeur ou du spectateur. C'est une peinture à l'huile traditionnelle, une peinture de chevalet, la plupart du temps, comme je l'ai dit, à partir de documents que je construis, que j'assemble, que je monte, mais aussi parfois...
Quel document ?
Oh, alors ça peut être... Par exemple, je tombe sur un ensemble de photos d'un artiste ou d'un photographe qui m'intéresse particulièrement. Bon, eh bien, je vais essayer de repérer les couleurs de cette palette.
Nous, on veut des noms, hein.
Enfin, alors là, c'est très compliqué parce que c'est
Il y a Munch, là, vous avez amené une représentation de Munch.
Oui, parce que je pensais qu'on allait parler des peintres qui, qui me passionnent.
Et oui,
par exemple, tout à l'heure, ça m'a traversé. On a tous fait les musées en Italie, Paris, enfin voilà, et on est devant des œuvres absolument magnifiques pour l'idée de boucher ou déboucher. Et puis, il y a des grandes œuvres classiques qui sont monumentales, impressionnantes, des œuvres de la Renaissance. Et quand on les regarde un peu plus près, les personnages sont soudés, ça ne respire pas. Et puis, vous tombez à un moment sur une toile du Caravage ou alors de mon maître absolu, de Velázquez. Et là, d'un seul coup, vous vous approchez, vous regardez et l'air circule partout et les couches sont indiscernables les unes des autres. Et tout ça, c'est un régal pour l'œil, pour la sensualité, la sensation. Mais aussi, alors là, ça c'est le top du top aussi pour l'intelligence. Voilà. Et il y a finalement très très peu de peintres qui donnent cette impression. Prenons un exemple contemporain aussi pour illustrer cette histoire de peinture bouchée ou pas bouchée. Vous avez un peintre comme. Alors ce sont deux copains, donc c'est assez marrant d'en parler. Vous avez d'un côté Francis Bacon qui travaille une peinture qui semble être jetée, spontanée, qui semble être un peu craché sur la toile et qui est d'une rigueur de composition absolument merveilleuse, avec un travail sur les matières.
Et souvent en nombre d'or.
Oui, tout à fait. Non, mais bien sûr, ça, c'est là, on va vraiment dans des choses très pointues. Mais quand vous êtes devant les œuvres de Bacon, vous vous rendez compte que non seulement il y a un travail sur la composition et sur la lumière, mais il y a aussi un travail sur les transparences, sur les brillances, sur les matités. Enfin, c'est assez fort. Et puis, vous avez son copain en face, qui est Lucian Freud, qui a fait une peinture absolument passionnante pendant toute la première partie de sa carrière, et puis qui s'est enfermé progressivement une espèce de peinture, alors c'est mon point de vue évidemment, plein de gens vont me contester, mais dans une peinture très pâteuse, très crayeuse, très encombrée, où la volonté de choquer et de farcir la toile, moi ça m'intéresse moins. Voilà, c'est un peu ça. Donc si, alors, pourtant, moi je me sens
pâteuse,
plus...
Pâteuse, ça veut dire en pâte, ça veut
voilà,
dire en matière.
Pâte,
hein.
Oui, voilà, mais il y a de jolies matières.
Oui, on voit la trace du pinceau voilà, dans la matière.
Voilà. Mais la grande peinture, à mon sens, elle est quand même plutôt maigre. Elle n'est pas en épaisseur. Vous avez des peintres qui sont...
Et Nicolas de Staël, alors.
Exactement, j'allais y venir. Voilà. Parce que c'est le principe même de sa peinture. Oui. C'est pas au service d'un projet. Sa peinture, c'est la pâte, c'est les structures. Alors ça, évidemment, c'est d'ailleurs un travail de peinture qui ressemble à un travail de sculpture, tout de modelage. Voilà. Bon, moi, j'adore ça. Je suis très voilà, le personnage est en plus.
Ah oui,
très,
on se délecte.
Voilà. Bon, mais
on se délecte peinture... devant une œuvre que l'on voit, une œuvre originale, mm-hmm. parce que devant un catalogue, c'est très différent.
Extrêmement frustrant. On passe à côté de tout. Alors, moi, j'invite tout le monde à aller voir de la peinture. La peinture, elle, c'est une expérience. C'est pas simplement un regard qu'on pose comme ça de loin sur des pixels ou une image de livre. Ça peut être une bonne invitation, mais ça ne peut pas suffire en aucun cas.
Soluto, du coup, on n'a pas décrit ce que vous peignez. Et vous savez ce qu'on va faire ? On va écouter un petit morceau de musique.
Oui.
Et puis, juste après, on va passer à la description.
Si vous voulez, allons-y.
Et vous avez choisi Clara Luciani,
oui,
pour ce premier morceau de musique, Chanson pour ma vieille. Pourquoi ?
Alors, voilà, moi j'écoute assez peu finalement de chansons françaises, mais un album est sorti récemment d'un tas de reprises de Guy Béard. Et j'ai trouvé vraiment que cette chanson qui est méconnue de Guy Béard était admirablement chantée avec toute la rigueur. Il y a très peu d'emphase, c'est très très bien chanté. Je trouve qu'elle est extrêmement talentueuse, cette fille que je ne connais pas du tout par ailleurs.
Je n'ai plus de pain, je n'ai plus de vin, je n'ai plus que toi, ma vieille. Je n'ai plus que toi qui cours à ma voix la nuit lorsque je m'éveille. Et ma bouche mord encore et encore le lait que tu me portes. Qu'il est doux alors, tandis que tout dort, te boire de la sorte. Je n'ai plus de feu, je n'ai plus de lieu, je n'ai plus que toi, ma vieille.
C'est Soluto qui est notre invité aujourd'hui dans Portrait. Soluto qui est peintre et auteur. Peintre et auteur, Soluto. Alors, nous avons promis aux auditeurs, et on les fait languir, de décrire vos tableaux. Ils représentent quoi, ces tableaux ?
Alors, voilà, je travaille essentiellement le portrait, le nu et le paysage. J'aime la peinture de genre, voilà. Ces dernières années ont été essentiellement consacrées au nu et au portrait.
Comment vous travaillez ? Vous avez un modèle qui pose ?
Bah non, alors j'ai eu, et puis beaucoup moins maintenant. Enfin, en tout cas, non, il faut que je trouve un bon modèle qui accepte un petit peu mes exigences. Non, je travaille
beaucoup.
C'est
quoi vos exigences ?
Bah, moi, je rêverais de travailler longuement, dans la durée, pas simplement prendre un croquis, une esquisse et travailler ensuite. Je voudrais vraiment pouvoir faire ça sur la durée de la peinture, et pour ça il faut, on peut le faire quand on a 25 ans, on peut plus le faire quand on en a mon âge. Voilà, il faut pouvoir payer les gens, les accueillir, les accompagner, c'est pas facile.
Ça coûte combien?
Ça coûte cher.
En général, on paye combien un modèle, là, aujourd'hui?
Un modèle, ça se paye entre 10 et 13 euros de l'heure, à peu près. Bon, enfin, voilà, mais je ne sais pas si c'est très intéressant, ça.
C'est intéressant, parce que je pense qu'il y a des gens qui seraient intéressés pour être modèle. Surtout avec quelqu'un de sérieux comme vous, de respectueux. Moi, je pense qu'on est plus près de 20, d'ailleurs, au niveau de modèles de nu, sauf si effectivement c'est des séances de 3 heures, et oui, c'est possible avec une pause, hein, 2 pauses, mm-hmm. Mais vous avez besoin de séances longues,
plus que ça, oui, c'est-à-dire que
renouveler,
voilà, plusieurs fois 3 heures. Et puis il faut aussi avoir le lieu. Là, mon atelier rétrécit considérablement parce que j'ai beaucoup de toiles qui s'accumulent sur les murs, et donc ça me mange de l'espace. Je cherche d'ailleurs un atelier, hein, si quelqu'un a un atelier
sur le Havre,
voilà, pas forcément en centre-ville comme celui que j'ai actuellement, non, voilà, j'ai besoin un peu d'espace, Voilà, c'est compliqué de faire poser les gens dans de bonnes conditions.
Vous étiez à Rouen avant et maintenant vous êtes au Havre.
Oui, je suis au Havre depuis longtemps maintenant. Hein. Je suis au Havre depuis 84-85. Je suis venu au Havre pour travailler, pour faire ma formation d'infirmier. Et je travaille donc, je travaille à temps partiel, donc, puisque la peinture et l'écriture ne nourrissent pas, en tout cas telles que je les conçois, ne nourrissent pas leur homme. Voilà, je travaille à temps partiel dans un hôpital.
Vous avez un autre volet, c'est effectivement l'écriture.
Oui.
Et alors, qu'est-ce que vous aimez écrire? Est-ce que vous avez des publications? Est-ce que ces publications sont illustrées par vos peintures?
Alors,
est-ce que vous arrivez à lier les deux? Est-ce qu'elles n'ont rien à voir?
Alors, oui, c'est probablement lié d'une certaine façon. En tout cas, au fur et à mesure des publications, j'ai dissocié le dessin de mon écriture. Le premier livre, enfin le deuxième à vrai dire, s'appelait Vie à la ligne et c'était un ensemble de textes que j'avais illustrés. Les textes étaient de moi, les dessins aussi évidemment, et ça avait été publié au Rêveur, une petite maison d'édition graphique. C'était un travail formidable. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai toujours écrit, je l'ai toujours fait avec beaucoup de sérieux, mais l'idée de publier m'est venu que sur le tard, car j'étais très inhibé par mes modèles. Moi, des auteurs que j'affectionne particulièrement, que j'ai beaucoup lu et relu, et je ne me sentais... Enfin là, pour le coup, il y avait un vrai problème de légitimité, problème que je n'ai jamais eu avec la peinture. Je ne sais pas si je fais une bonne ou une mauvaise peinture, mais je me vis peintre. Auteur, c'est un petit peu plus délicat. Ça vient tout doucement. Voilà, les retours qui me sont faits sur mes écrits me donnent peu à peu un peu de confiance en moi, encore que c'est très fragile. Hein. Pour un petit pas en avant, parfois des tas de doutes m'assaillent. Mais voilà, l'écriture, c'est pas quelque chose qui est apparu dans ma vie d'emblée. Hein. J'ai commencé à écrire un peu sur le tard. Alors, j'écris des nouvelles et puis j'ai écrit 3 longues nouvelles qui ont été publiées aux dilettantes, voilà. Ça a été une expérience formidable. Voilà, c'est une très belle maison d'édition. Ensuite, j'ai publié un ouvrage au Rocher qui s'appelait « Redites-moi des choses tendres », qui était un roman. Et là, j'ai un nouveau texte qui est en cours de lecture et on va voir ce que ça va donner. Voilà, de bons espoirs.
Vous parlez de lecture, Soluto, et dans les objets, en fait, vous avez choisi des objets littéraires, une
oui.
jolie façon de contourner.
C'était une pirouette.
Et c'est parfait, vous avez tout à fait le droit à cette pirouette et les invités sont complètement libres de choisir les éléments qui leur conviennent. Vous avez choisi un premier texte de Anna de Noailles qui s'appelle « La vie profonde ». Et bien, je serais très heureuse que vous nous le lisiez avec cette voix si particulière que vous avez.
Alors, La vie profonde, d'Anna de Noailles. Alors, bon, un petit mot quand même sur ce texte. Je ne suis pas un fan d'Anna de Noailles. Sa poésie est assez intéressante, mais enfin, c'est plus une personne qui me semble anecdotique dans l'histoire de la littérature. Pourtant, il y a ce texte que j'ai trouvé il y a très longtemps maintenant, que j'ai mâché, remâché, et qui me parle directement. Et donc, c'est ce texte-là que je vais vous lire, qui s'appelle La vie profonde. Être dans la nature ainsi qu'un arbre humain, étendre ses désirs comme un profond feuillage et sentir, par la nuit paisible et par l'orage, la sève universelle affluer dans ses mains. Vivre, avoir les rayons du soleil sur la face, boire le sel ardent, des embruns et des pleurs, et goûter chaudement la joie et la douleur qui font une buée humaine dans l'espace. Sentir dans son cœur vif l'air, le feu et le sang, tourbillonner ainsi que le vent sur la terre, s'élever au réel et pencher au mystère, être le jour qui monte et l'ombre qui descend. Comme du pourpre soir aux couleurs de cerise, laisser du cœur vermeil couler la flamme et l'eau, et comme l'aube claire appuyée au coteau, avoir l'âme qui rêve au bord du monde assise. Et voilà, moi je suis un peu comme ça, j'ai l'âme qui rêve au bord du monde assise. Voilà, j'ai une âme qui regarde un petit peu passer les choses qui vont et qui viennent. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce poème, c'est l'idée de s'élever au réel, qui est une notion incontournable. On ne peut pas éviter le réel. Le réel se nous heurte en permanence. Mais il ne faut pas, malgré tout, oublier la deuxième partie, qui est qu'il faut pencher au mystère. Et le mystère, eh bien, il est, comme son nom l'indique, extrêmement mystérieux. Il va, il vient, et il faut lui laisser sa place, une grande place.
Soluto, vous aviez peur que ce soit un peu long, cette émission, et en fait, on arrive presque au terme de l'émission.
Oh, mince.
Du coup, on n'aura pas du tout le temps d'évoquer tous les éléments que vous avez choisis, notamment la photo tirée du film Vertigo, signé Hitchcock, un homme qui modèle une femme pour la rendre exactement à son image. Il a une image en tête, alors il veut la faire coïncider avec sa peinture. Ça va être un petit peu trop court.
Tant pis, mais ça a un lien très fort avec la peinture et la figuration. Bon, tant pis, on en parlera une autre fois.
Vous savez ce que j'aimerais ? C'est, vous m'avez mis l'eau à la bouche tout à l'heure en me parlant du chien et du loup. Est-ce que, Soluto, vous seriez d'accord pour nous dire cette fable de La Fontaine que vous disiez régulièrement à vos enfants parce que vous êtes un peu loup et un peu chien et que ce loup et ce chien de La Fontaine, quelque part, c'est vous ?
Oui. Le loup et le chien de Jean de La Fontaine. Un loup n'avait que les os et la peau tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, sireux loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils sont misérables, cancres, hères, et pauvres diables dont la condition est de mourir de faim. Car quoi ? Rien d'assuré ? Point de franche lipée ? Tout à la pointe de l'épée ? Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. » Le loup reprit. « Que me faudra-t-il faire ? Presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens, portant bâton et mendiant, flattez ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera relief de toutes les façons, eau de poulet, eau de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup, déjà, se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Qu'est cela, lui dit-il ?
Rien.
Quoi, rien ? Peu de choses, mais encore. « Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. »« Attaché, dit le loup, vous ne courez donc point où vous voulez ?»« Pas toujours, mais qu'importe. »« Et il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix d'un trésor. » Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore.
Soluto, je crois que c'est une fin exactement telle que je la rêve dans cette émission. Vous concluez à merveille. Nous allons remplacer le générique de fin par le deuxième morceau de musique que vous avez choisi, Duke Ellington, en guise de générique.
C'est sublime.
Dites-nous pourquoi vous avez choisi Thunderly.
Alors Thunderly, parce que alors c'est un standard, hein, ça a été interprété par des quantités de musiciens. Cette version de Duke Ellington, elle est magnifique pour la clarinette qu'on entend là derrière moi, qui est absolument sublime. Voilà, c'est une longue phrase qui ne se termine pas et qui est magnifique. Et puis à un moment, vous verrez, le swing arrive et c'est sublime.
Je n'ai pas encore donné l'adresse de votre blog, de votre site. Eh bien, vous tapez Soluto Peinture dans un moteur de recherche et vous tombez dessus. Soluto, c'est S-O-L-U-T-O.
Merci, Claire-Lise.